Merci beaucoup, bonsoir. Je voudrais commencer, bien sûr, par remercier l'Université de toutes les cultures et tout particulièrement Jean-Yves Frétinier de m'avoir proposé de prendre part à ce programme, à ce très beau programme. Et je dis ça beaucoup plus pour ce qui reste à en venir que pour la conférence que je vais vous présenter ce soir sur les relations qu'entretiennent la mémoire et le marché. La mémoire dont nous parlerons, c'est celle que la pratique des commémorations entend faire vivre. Tout particulièrement, je m'intéresserai, Jean-Yves Frétinier l'a un peu annoncé, aux commémorations du débarquement en Normandie, dont le mois de juin dernier a marqué le 75e anniversaire et nul n'a pu y échapper. La pratique des commémorations, particulièrement répandue en France, et porteuse d'enjeux multiples entre mémoire, transmission, patrimoine, diplomatie, tourisme, commerce et aussi valorisation du territoire. On peut donc les aborder de différents points de vue et je voudrais commencer par préciser celui qui sera le mien. Trois facteurs déterminent ce point de vue. Le premier est d'ordre personnel, Jean-Yves Frétinier l'annoncer un tout petit peu aussi. Ce point de vue personnel, ce sont des origines familiales et géographiques qui font que, natif de ce qu'on appelait, il y a peu de temps encore, la basse Normandie, je suis resté assez attentif, bien qu'à distance, à différents aspects de ce qui s'y passe. Les évolutions sociales, économiques, les porosités à l'œuvre avec d'autres espaces, les mobilités. Attentif aussi au développement et aux évolutions des pratiques commémoratives et des dispositifs mémoriels liés à la Seconde Guerre mondiale, et tout particulièrement, bien sûr, au débarquement. Je reviendrai sur les transformations survenues entre les premières commémorations que j'ai pu voir dans les années 1960, quand j'étais sur place, et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. J'ajoute, sans vouloir m'éterniser sur cette dimension personnelle, qu'un de mes plus anciens souvenirs d'enfant, c'est le tournage des scènes de nuit du jour le plus long. Le film est sorti en 1962. Je n'ai évidemment compris que bien plus tard combien son rôle était important dans la représentation collective du débarquement. L'enjeu étant alors pour le public local, habitant de Sainte-Mère-Église et des environs, qui avait largement figuré durant le tournage, d'identifier les figurants, justement, également locaux, et de comparer le traitement par le cinéma de tel ou tel épisode aux souvenirs que chacun, les témoins étaient alors encore très nombreux, aux souvenirs que chacun pouvait en avoir. Derrière l'appréciation du degré de vraisemblance de certaines scènes pointées à peine, les questions que soulève depuis quelques années la progressive mise en spectacle de l'histoire. Le deuxième facteur qui détermine mon point de vue est d'ordre scientifique, celui-ci, il a trait à mon ancrage, effectivement, mon ancrage universitaire en sciences de la communication. Alors, que faisons-nous ? Mon parcours dans cette discipline s'inscrit dans un courant d'analyse critique des industries culturelles, qui s'intéresse aux modalités et aux conséquences de l'industrialisation de la culture et de la communication. Pour le dire de manière très synthétique, ici, nous nous intéressons aux conditions de production et de circulation des biens et des contenus culturels. S'agissant d'abord des filières classiques comme la musique, le cinéma, la télévision, la presse ou encore l'édition, nous nous appliquons à étudier les mutations des modes de fonctionnement qui régissent leur activité, en cherchant à croiser ce qui relève de l'économie, du droit, des politiques publiques, de la sociologie, de l'histoire, voire même de la technologie. Et en cherchant aussi à comprendre dans quelle mesure ces conditions de production et de circulation influent sur les contenus eux-mêmes, sur leur diversité ou leur standardisation, sur leur ancrage territorial ou au contraire leur internationalisation, sur les conditions des créateurs eux-mêmes. Alors, ces recherches appliquées aux filières culturelles traditionnelles que j'ai nommées se sont étendues dans un second temps à d'autres champs tels que l'éducation ou la formation, mettant au jour, dans une perspective critique toujours, ce que l'on appelle aujourd'hui les industries éducatives. Ces recherches ont aussi été étendues à l'industrie du jeu vidéo, tout en développant, au-delà même des seules industries culturelles, éducatives et vidéoludiques, une interrogation sur les mouvements dits d'économicisation, excusez-moi, c'est un peu du jargon, mais il va nous être utile, mouvements dits d'économicisation de la culture et inversement de culturalisation de l'économie. Ou, en disant les choses autrement, sur la manière dont les biens symboliques et les logiques économiques interagissent et se rencontrent aujourd'hui. Le discours sur la créativité, qui est porté à profusion dans tous les secteurs d'activité, est emblématique de cette interpénétration. Comment des entreprises culturelles incorporent-elles des modes de fonctionnement relevant des industries non culturelles et, symétriquement, comment des entreprises non culturelles importent-elles des modalités de fonctionnement habituelles au sein des industries culturelles et tendent-elles, ce faisant, à devenir des industries des biens symboliques. Enfin, ces recherches ont fini par prendre en compte la question de la territorialisation des activités culturelles en portant l'attention sur la manière dont leur double nature économique et symbolique intervient dans les stratégies de valorisation des territoires. On parle de territoire créatif. Alors, une des questions que l'on abordera ici cherchera à apprécier dans quelle mesure les commémorations relèvent désormais de cette logique d'industrialisation et de valorisation du territoire. Les plus importantes de ces commémorations rassemblent tous les attributs des industries culturelles, à l'image de celles qui se sont déroulées en Normandie pour le 75e anniversaire. Le star system, la médiatisation, l'hypermédiatisation, la mise en spectacle, le développement des produits dérivés, les phénomènes de reproduction et d'exploitation multi-support. Troisième et dernier facteur qui détermine mon point de vue, c'est celui qui permet de préciser un troisième volet de mon activité, effectivement, la production romanesque. Donc, autre volet de mon activité, qui est tout à fait mineur dans mon parcours, mais néanmoins central dans ma manière d'aborder la question des commémorations, la manière de m'intéresser à la mémoire historique et à ses relations à l'économie et au territoire. C'est en effet par la fiction que, sous la forme de ce roman, que j'ai tendance à présenter comme une farce caustique, et avec la liberté que permet tout le genre romanesque, j'ai commencé à interroger les développements de ces pratiques commémoratives et leur glissement vers le loisir et le divertissement. Le personnage principal de mon roman, l'homme brut, est quelqu'un qui s'invente des souvenirs de guerre pour tirer profit des débuts du tourisme mémoriel et du commerce qui se développe dans son sillage. Ces trois points étant maintenant précisés, on n'attendra donc pas ici un propos d'historien, je m'en excuse auprès de mon éminent collègue historien lui-même, mais davantage le propos d'un spectateur, d'un observateur qui s'est exprimé une première fois par le biais de la littérature et qui replace aujourd'hui sa réflexion dans le cadre plus large des mutations des industries culturelles. La genèse de ma démarche remonte au 60e anniversaire du débarquement, juin 2004. Un reportage télévisé montre Michel Drucker sur un podium installé sur la place de Sainte-Mère-Église, entouré de Patrick Bruel et de Mireille Mathieu, et d'un groupe de vétérans ou de témoins du débarquement auxquels il donne successivement la parole en les invitant à raconter un de leurs souvenirs du D-Day. La parole hésitante, la mémoire défaillante, le manque d'habitude de l'exercice télévisuel et de ses contraintes font que, alors que beaucoup de ces témoins ou vétérans âgés cherchent leurs mots, s'engagent dans force détail en oubliant qu'ils ne disposent que de quelques secondes, celle-ci écoulée, Drucker leur reprend la parole et passe au suivant, sans que le précédent soit parvenu à aller au bout de son propos. Au-delà de la brutalité et du caractère assez choquant de ce qui se jouait alors, j'ai compris que nous assistions à la confrontation de deux temporalités ou deux logiques. D'un côté, celle du récit, du témoignage, de la mémoire, de la transmission, qui requiert le temps long. De l'autre, celle du spectacle, télévisuel en l'occurrence, qui exige rapidité, séquençage, rythme soutenu, et implique de mettre à l'écart les acteurs qui ne font pas l'affaire. Autrement dit, la tension entre le travail de collecte et de transmission de la mémoire et la mise en spectacle, tension qui s'exprimait, sans être conceptualisée, parmi les témoins et vétérans spectateurs du jour le plus long que j'évoquais il y a quelques instants, cette tension basculait au profit du spectacle. Un bref parcours de l'évolution des commémorations peut nous être utile pour éclairer cette mutation. S'agissant de celle du débarquement en Normandie, il faut d'abord souligner que jusque dans les années 1980, il s'agissait essentiellement de cérémonies militaires, dont les chefs d'État étaient le plus souvent absents, à l'exception de René Coty en 1954. Et parmi ces absents, on note tout particulièrement le général de Gaulle, courroucé d'avoir été tenu à l'écart des préparatifs du débarquement par les Anglo-Américains. Dans un échange avec Alain Perfitte, qui était alors ministre de l'Information, et qui essayait de le convaincre de se rendre en Normandie pour les commémorations de juin 1964, de Gaulle tient ses propos. Alors, je ne vais pas vous imiter l'accent gaulien, j'ai la voix un petit peu cassée pour le faire, mais il disait ceci, « Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France, comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Et vous voudriez, vous imaginez le Gaulle levant les bras, hein, vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement. » Les dimensions politiques et diplomatiques étaient donc officiellement absentes des cérémonies de cette période, même si, en creux, elles étaient bien évidemment présentes. Le basculement vers une autre conception des commémorations, plus ouvertement politique et diplomatique, peut être situé en 1984, année du 40e anniversaire, qui a été marquée par la venue du président Reagan et de la reine d'Angleterre sur les sites du débarquement. Mais d'autres distinctions peuvent être faites qui ont davantage trait aux moyens mis en œuvre et à l'attention croissante portée à l'image. On peut ainsi signaler la première retransmission en Eurovision, en 1964, qui suit la participation aux cérémonies du ministre des Anciens Combattants, Jean Saint-Denis, et de celui de la Coopération, Raymond Triboulet. Alors, je vous ai préparé de brefs extraits vidéo, dont j'espère que ça va marcher. Voilà.
Le 6 juin 1944, l'assaut décisif était donné aux plages de Normandie. 20 ans plus tard, à Utah Beach, comme dans les autres secteurs, les ministres français, messieurs Saint-Denis et Triboulet, ont rendu hommage aux soldats de la liberté, américains, anglais, canadiens. Et à Sainte-Mère-Église, ils ont accordé une pensée particulière aux parachutistes du général Ridgway, qui firent de cette cité la première ville libérée de France. À Vannes.
De même, peut-on repérer dans cette évolution, en 1974, la reconstitution de l'assaut de la pointe du Hoc. Les documents audiovisuels disponibles montrent un bataillon à l'exercice, escaladant la falaise en grande difficulté, apparente en tout cas, devant un petit groupe de spectateurs officiels.
La plage d'Omaha et la plage du Utah. Leur destruction fut donc décidée et à l'aube du 6 juin 1944, après divers bombardements, trois compagnies du 2e bataillon de Rangers s'emparaient de la falaise sous les ordres du lieutenant-colonel Rudder. C'est à l'aide de grappins que les Rangers escaladèrent cette falaise alors qu'au sommet, les Allemands tentaient de les arrêter, les mitraillant et les arrosant de grenades et de rochers. Le destroyer Satterley les paralysa et les Alliés purent arriver au faîte de la falaise. Aujourd'hui, le sol de cette falaise garde les cicatrices des terribles combats qui s'y sont déroulés. Pour les rappeler, une simple inscription, ici des combattants demeurent. La bataille dans son chaos les a unis pour l'éternité.
Si cette première ne cède pas encore à la tentation du très grand spectacle, tout juste aperçoit-on un ou deux soldats tenant un rôle de blessé, on entend quelques tirs, elle n'en ouvre pas moins la voie à une pratique qui s'est largement répandue depuis lors et qui consiste à organiser des reconstitutions de scènes, marches, lieux divers, voire des simulations de vol dans un avion du type de ceux qui ont transporté des parachutistes. Cette montée en puissance de l'image et du spectacle est soutenue par l'argument pédagogique selon lequel ils aideraient les générations n'ayant pas vécu la guerre à mieux en appréhender la réalité. La venue de Reagan en 1984 constitue un repère supplémentaire.
Les spectateurs présents cet après-midi à la pointe du Hoc, au lieu des combats américains contre l'occupant allemand, ont été conviés à un véritable show à l'américaine, orchestré par le plus célèbre des Yankees, Ronald Reagan. Sur ce site resté célèbre où le 2e bataillon de Rangers du colonel Rudder fit l'escalade de falaises hautes de 30 mètres pour s'emparer de la position fortifiée ennemie, le président américain a parcouru souriant et tenant par la main sa femme Nancy, les quelques dizaines de mètres qui le séparaient du mémorial, s'arrêtant cependant en chemin pour dire bonjour à ses compatriotes en direct à la télévision américaine ou encore pour être interviewé par l'homme le plus célèbre du petit écran outre-Atlantique, Walter Cronkite. Ensuite, dans un discours d'une dizaine de minutes, le président américain devait insister sur ce combat héroïque des Rangers, morts pour protéger et défendre la démocratie. Ici, devait souligner Ronald Reagan, commença la fin de la tyrannie. Un discours certes sur le passé, mais qui devait comporter une petite phrase politique. Il n'y a pas de réconciliation que nous souhaitions plus que celle avec l'Union soviétique. Un appel donc du président américain pour la réduction des armements et la paix dans le monde. Une minute de silence était ensuite consacrée aux 80 Rangers tués en ce 6 juin 1944, avant que le président, aux accents de « ce n'est qu'un au revoir », ne salue les quelques 60 vétérans rescapés du véritable enfer que fut cet assaut et que résume parfaitement cette phrase restée célèbre « Il y a deux sortes d'individus qui étaient sur la plage, les morts et ceux qui devaient mourir. »
Sur le plan politique, cette première participation d'un président américain aux commémorations est à replacer dans le contexte de la guerre froide, et plus précisément dans le contexte de la crise des euromissiles. Le discours de la pointe du Hoc sert, entre autres, à rappeler la place de garant de la liberté que les États-Unis entendent tenir face à l'URSS, dont Reagan rappelle qu'elle contrôle encore certains pays, à commencer par l'Allemagne de l'Est. Dès lors, la médiatisation des commémorations est accrue, et Olivier Viorca note à leur sujet, je le cite, qu'elles ne sont plus axées sur l'idée de victoire, mais sur l'idée de paix, de réconciliation et de construction européenne. Mais comme l'a montré Hélène Harter dans son analyse qu'elle fait du discours de Reagan, le discours lui-même, autant que sa mise en scène et le moment précis choisis pour sa diffusion internationale en direct sont conçus pour un usage intra-américain qu'il faut situer, lui, dans le contexte de la campagne présidentielle qui conduira à la réélection de Reagan. La presse souligne alors que le faste de la commémoration dépasse tout ce qui avait été organisé jusqu'alors. Le 50e anniversaire du débarquement, en 1994, prend une ampleur particulière avec la présence de 13 chefs d'État. Bien que les adversaires de l'époque ne soient pas associés à cette commémoration, le discours du président Mitterrand bascule résolument vers le thème de la paix et de la construction européenne.
L'Europe sauvée ne pouvait être qu'une autre Europe. 340 millions d'Européens en attendant les autres se sont dotés de lois communes. Un conflit armé est devenu entre eux inconcevable. Réconciliés, les adversaires de la bataille de Normandie marchent désormais du même pas.
Cela conduira en 2004 à la présence du chancelier Schröder aux commémorations du 60e anniversaire du débarquement et à son étreinte historique, l'expression a été utilisée à l'époque, avec Jacques Chirac devant le mémorial de la paix à Caen, accolade entre frères, présenté comme le geste symbolique de la réconciliation entre les deux nations. Bon, excusez-moi, j'aurais dû la mettre un tout petit peu plus tôt. Pour que... On y voit donc, plus tard, un autre moment de cette vidéo qui est un peu trop longue, cette fameuse accolade, étreinte fraternelle entre Jacques Chirac et Schröder. Dernier repère dans ce parcours des commémorations, celles de 2014 sont marquées par, tout d'abord, leur dimension politique. Dans le bilan qu'ils ont fait à l'issue de la journée du 6 juin, François Hollande évoque une journée utile qu'il a pu mettre à profit pour organiser des rencontres, notamment entre Poutine et Porochenko, au sujet de la crise en Ukraine. Ce que Libération a traduit en titrant « 6 juin 2014, une plage diplomatique ». La crise ukrainienne, comme celle des euromissiles 30 ans plus tôt, trouve place en marge des cérémonies pour souligner la part du soft power que celles-ci ont acquis au fil du temps. Deuxièmement, ces commémorations de 2014 se distinguent aussi par la mise en scène, dont peut rendre compte cet extrait du spectacle de la cérémonie officielle de la commémoration que je vais essayer de retrouver sur cet ordinateur où je me perds assez vite. 6. Vous avez un aperçu de ce grand spectacle qui avait été réalisé donc pour les commémorations de 2014. Si ça veut bien, voilà.
Après plusieurs jours d'intenses combats, le drapeau soviétique est hissé sur le Reichstag le 1er mai. La capitulation de l'Allemagne est signée le 7 mai à Reims, le 8 à Berlin.
Enfin, ces commémorations 2014, et en lien avec la mise en spectacle, sont marquées par ce que François Hollande toujours a qualifié de ferveur populaire inimaginable, une foule, une passion. Vétérans et tourisme, c'est bien ce qui se joue actuellement avec un double enjeu. Perpétuer l'intérêt du public pour les commémorations à un moment où les derniers témoins directs disparaissent, et tirer parti du filon de ce que l'on appelle le tourisme de mémoire, représente pour la région en termes économiques, sur le plan de l'aménagement du territoire et en termes de notoriété. Cette double ambition, à vrai dire, n'est pas tout à fait récente. Dès 1945, tourisme et mémoire sont liés dans l'esprit de Raymond Triboulet, qui, sous-préfet de Bayeux nommé en juin 1944, met en place, dès l'année suivante, le comité du débarquement. Ainsi que le relève l'historien Jean Kélien, les statuts de ce comité indiquent qu'il a pour rôle, je cite, « la commémoration par tous les moyens du débarquement de juin 1944 et notamment le développement du tourisme dans la zone de débarquement ». Les moyens en question sont d'ailleurs précisés dans ces mêmes statuts. Il s'agit de l'organisation de cérémonies, de conférences, d'expositions, l'établissement de musées, de monuments. Une loi relative à la conservation du souvenir du débarquement allié en Normandie est votée en 1947, qui encourage les investissements dans l'hôtellerie et prévoit l'aménagement des plages, des sites de débarquement, parmi lesquels Utah Beach, Omaha et le port artificiel d'Arromanche sont désignés comme prioritaires. Une route du débarquement est mise en place qui s'enrichit progressivement de bornes, de balises, de stèles, de plaques et de monuments, et on voit aussi apparaître, entre 1945 et 1950, les premiers guides. Les premiers guides et cartes touristiques consacrées aux plages du débarquement, telles que le nouveau guide de la Normandie en 1946, annonçant en sous-titre les plages, les campagnes, les villes aux clochers, les bonnes maisons, avec les récits du débarquement et des batailles. Ou bien encore la carte Michelin, intitulée « Bataille du débarquement » qui paraît en 1947. La construction de musées poursuit ce développement. Je reviendrai sur la nature même des différentes offres muséales aujourd'hui accessibles et sur la diversité de ces offres. Mais notons pour l'instant la suite chronologique qui rend compte de l'ouverture des principaux musées parmi la quarantaine que l'on pouvait recenser en 2014. Le premier à ouvrir ses portes en 1953 est le musée d'Arromanche, inauguré en 1954 par René Coty pour le 10e anniversaire du débarquement, en même temps que le musée de la Libération à Cherbourg. Ceux de Sainte-Marie-du-Mont et de Sainte-Marie-Église sont ouverts presque 10 ans plus tard, respectivement en 1962 et en 1964. Mais c'est surtout dans les années 1980 que le développement est spectaculaire. Entre 81 et 88, dans un petit cercle d'une trentaine de kilomètres de diamètre, surgissent le musée mémorial de la bataille de Normandie à Bayeux, le musée de la batterie de Merville, près de Caen, le mémorial de Caen et le grand bunker de Ouistreham. De création plus récente, on peut ajouter le mémorial Pegasus de Ranville, sur l'Orne, et en 2000, et le Deadman's Corner, près de 40 ans, ouvert en 2005, je reviendrai sur ce dernier. Si une part de ces musées relève de la volonté des pouvoirs publics et dispose de compétences scientifiques qui leur permettent de tenir convenablement leur rôle, il semble bien que le filon ait suscité des initiatives de tout type qui ne s'encombrent guère d'exigences scientifiques ni de déontologie professionnelle. Il faut dire que le développement du tourisme, dont on a vu qu'il faisait partie des objectifs du sous-préfet Triboulet en 1945, est une réussite. Sur le plan quantitatif, sans multiplier les chiffres et sans remonter au-delà de la période récente, retenons que l'on passe de 3 millions de visiteurs sur les sites de mémoire normands en 1995 à quelque chose comme 6 millions en 2014. Et on peut préciser que les anniversaires décennaux et quinquennaux assurent des pics de fréquentation très sensibles. Les initiatives de la région pour développer le tourisme de mémoire et, je cite le comité régional du tourisme en Normandie, pour valoriser la destination Normandie auprès des visiteurs du monde entier, en lien avec la démarche d'inscription des plages du débarquement à l'UNESCO. Ces initiatives, donc, s'inscrivent, de ce point de vue, dans la continuité du projet de 1945. Les termes du contrat de destination tourisme de mémoire en Normandie, qui associe l'État et la région, fixent aux acteurs publics et privés des objectifs à atteindre afin d'accompagner le passage d'une clientèle dite de témoins à une clientèle dite de curieux. Et ces différents volets entendent tout d'abord permettre à la Normandie d'être la destination internationale par excellence sur la Seconde Guerre mondiale, ensuite développer la fréquentation des sites et les retombées économiques sur le territoire, enfin accéder à une place de premier plan en Europe et dans le monde en tant que région porteuse des valeurs de paix, de réconciliation et de liberté. La mémoire est donc aussi un facteur de notoriété régionale, et ceci bien sûr à l'échelle internationale. 6,3 millions de touristes ont visité la Normandie en 2018, qui se situe sur ce plan en deuxième position derrière l'Île-de-France. Les principaux pays d'origine des visiteurs des sites de mémoire normands sont, par ordre décroissant, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les USA, l'Allemagne et la Belgique. Les Américains représentent à eux seuls un tiers des nuitées hôtelières et les Anglais un quart. La préférence donnée à l'expression anglo-américaine « D-Day » que l'on retrouve dans nombre de titres de manifestations, de produits de consommation et d'enseignes, plutôt qu'à l'expression française « jour J », est un indice de cette notoriété internationale. Car un touriste, fût-il de mémoire, reste un touriste et consomme. Char et parachutiste dans une boule de neige, biscuits en forme de parachute, criquet, casquette, t-shirt, bière et vin étiquetés D-Day, sandwich, burger et menus spéciaux, vraies et fausses antiquités militaires, la liste est inépuisable des objets qui garnissent les vitrines des commerces et les boutiques des musées. Nous touchons là à une caractéristique forte des industries culturelles, ou plus exactement à une caractéristique du phénomène d'industrialisation de la culture, à savoir le développement des produits dérivés. La comparaison peut être faite avec ce que l'on a pu observer dans différents domaines n'ayant rien à voir avec les commémorations. Dans le domaine musical, avant qu'il ne soit dématérialisé, la commercialisation des singles et des compilations, les best-of, jouait ce rôle de produit dérivé. Dans le cinéma, la vente des cassettes vidéo, puis des DVD, avant celle des offres de téléchargement ou de streaming, a ouvert un marché complémentaire à celui des salles. On peut y ajouter la vente des friandises à l'entrée des mêmes salles, et pour certains films, la vente de figurines, t-shirts, casquettes, chaussettes, je reprends la liste. Dans l'édition, cette pratique des produits dérivés a d'abord pris la forme de rééditions, qu'il s'agisse de l'édition de poche, ou de collections proposant diverses formes d'œuvres complètes. Elle s'est aussi développée, tout particulièrement dans les secteurs de la jeunesse et de la BD, par le biais des mêmes gadgets et figurines. Enfin, c'est dans l'industrie du jeu vidéo, que cette pratique est poussée à son paroxysme et constitue une composante indispensable à l'économie de la filière, à tel point que les stratégies des éditeurs de jeux vidéo ne reposent pas sur la commercialisation d'un catalogue de jeux, mais sur celle d'un ensemble d'univers développé à partir de chacun de ces jeux. Il s'agit en fait d'exploiter la notoriété acquise par ces jeux pour commercialiser toute une gamme de produits et de services, comme les romans et bandes dessinées tirées de jeux tels que Assassin's Creed, Tomb Raider, Final Fantasy ou encore Pokémon. On peut ainsi en venir à considérer que le débarquement est devenu un univers développé à partir d'une marque. D'une marque d'idées, à l'instar de ce que l'on observe dans les industries culturelles. L'univers d'idées se déploie sur le terrain du cinéma, de l'édition, du jeu traditionnel ou vidéo, l'industrie musicale étant probablement la moins concernée. Ce déploiement se déroule toutefois dans un contexte qui appelle deux précisions. La première est d'ordre juridique. Alors que le développement des gammes de produits dérivés dans les industries culturelles est étroitement lié à des contrats et licences d'exploitation régis par le droit de la propriété intellectuelle, l'utilisation de tout ce qui constitue l'univers du débarquement est entièrement libre de droit. Tout fabricant de produits dérivés peut utiliser ce qui fait référence au débarquement sous des appellations diverses, le D-Day, le 6 juin, le jour J et ses variantes, comme des marques et des labels gratuits et libres de droit. Contrairement, bien évidemment, à ce qui se pratique dans les industries culturelles, où les créations sont protégées par le droit. Quiconque s'aviserait de produire et de commercialiser des figurines de Tintin, par exemple, serait immédiatement poursuivi en justice par la fondation Moulinsart, qui gère les droits d'Hergé. De même pour tout ce qui relève des jeux vidéo. Cette absence de cadre juridique est évidemment un élément de contexte très important, tant sur le plan économique, puisqu'il évite le versement de droits, qu'en ce qui concerne l'étendue même de l'exploitation de la notoriété de tout ce qui fait référence au débarquement. C'est bien là l'objet de la seconde précision. J'ai déjà évoqué la longue liste et très incomplète liste de produits faisant référence au débarquement et constituant cet univers d'idées, comme dans l'industrie du jeu vidéo ou de la bande dessinée. J'ajoute ici que cette étendue de l'exploitation est d'autant plus large et probablement illimitée qu'elle s'appuie sur un événement, un moment historique qui constitue une marque dans le sens commercial ou marketing du terme, dont l'usage n'est pas protégé. En conséquence de quoi, non seulement chacun peut user de cette marque libre de droit, mais ses domaines d'usage ou ses domaines d'application ne sont pas davantage limités. On comprend donc ainsi que cet univers du débarquement s'étendent non seulement aux biens culturels, traditionnels, du livre au cinéma en passant par le jeu, mais aussi à cette large gamme de biens de consommation courante, à un ensemble de services et au territoire. Si certains utilisateurs de cette marque d'idées en font un usage ouvertement commercial, d'autres y ont recours de manière plus subtile ou ambiguë. On pense là tout d'abord à cette multiplication des musées déjà évoquée. Ce phénomène, très actif en Normandie, a été étudié par une chercheuse de l'Université de Caen, Françoise Passera, qui s'est appliquée à dresser une typologie des musées consacrés au débarquement sur la base des 42 établissements qu'elle a pu visiter. Signalant tout d'abord qu'il semble que tous ces musées se portent bien économiquement, ce qui n'est pas le cas des musées en général, et que très rares sont ceux qui disposent de personnel scientifique, elle relève que les métiers les plus divers mènent à la direction de ces établissements. Elle trouve ainsi d'anciens militaires, un commercial en lingerie, des professionnels du tourisme et de la communication, des professionnels de l'édition et de la presse, qui légitiment tous leur position par le fait d'être passionnés d'histoire, ou bien encore nés ici, ou bien encore collectionneurs depuis toujours. Relevant le plus souvent de l'initiative privée, c'est le cas de plus de la moitié de ces musées, ils sont pour beaucoup le résultat de la transformation de stocks personnels en collections présentées au public. Le lien avec les bourses de militaria, ces brocantes d'antiquités militaires, est très étroit, et les boutiques de certains de ces musées, comme au Dead Man's Corner, qui commercialise de très nombreux objets d'époque, constitue la part essentielle de leur activité. Autant dire que la définition des musées, telle qu'elle est posée par l'ICOM, le Conseil international des musées, est largement mise à mal. Elle postule cette définition que le musée, je le cite, est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études et d'éducation. Le musée doit s'efforcer de s'assurer que les informations données dans les présentations et les expositions sont honnêtes et objectives et qu'elles ne perpétuent pas de mythes ou de stéréotypes. Fin de la citation de cette définition. Cette définition souligne la dimension non lucrative et scientifique des musées, aspect au sujet desquels Françoise Passera observe que souvent, je la cite, l'objectif économique prévaut sur l'objectif pédagogique. La confusion entre muséologie, histoire et commerce est de taille, et elle va très au-delà de ce que les traditionnelles boutiques de musées peuvent donner à voir. Ainsi, si l'on peut être tenté de considérer que cette confusion relève parfois simplement de l'amateurisme ou de la négligence, il advient aussi qu'elle prenne une dimension beaucoup plus grave, beaucoup plus brutale, en mettant explicitement en cause le rôle même des musées et des scientifiques. Le cas du Dead Man's Corner est éclairant. Ce musée, entre guillemets, installé dans une maison qui, pendant la guerre, a successivement servi de base aux militaires allemands, puis aux militaires américains, à proximité de 40 ans, ce musée donc constitue un dispositif en trois parties. Tout d'abord, une partie dite historique, qui présente notamment deux salles où sont reconstituées des scènes de groupes de militaires allemands. Une seconde partie, le magasin, qui présente à la vente du matériel d'époque, dont les fameux criquets des parachutistes, qui sont vendus là pour la modique somme de 4 950 euros l'unité. Il n'y a pas d'erreur dans le chiffre. On y trouve aussi un casque à 7 500 euros et une veste à 14 500 euros. mais aussi des lettres de soldats, des vêtements et des armes. Troisième partie du dispositif, plus récente, c'est un bâtiment neuf où le public peut s'installer à bord d'un avion C-47 de transport de troupes, monté sur un système de vérins qui reproduit les secousses du vol et qui est doté d'écrans vidéo qui reproduisent à la place des hublots sur la carlingue, à l'intérieur de la carlingue, le paysage de la côte, les tirs de la flak allemande, la défense allemande, et le crash final, tout cela pour vivre ce qui nous est présenté comme une D-Day experience. Accompagnant ce triple dispositif, le discours du responsable de ce musée finalement finit de lever toute ambiguïté quand celui-ci déclare, je le cite, « Les historiens du musée, c'est nous. » Non, pardon, « les historiens, c'est nous. » On a écrit et auto-édité 19 ouvrages. Ou bien encore, il ajoute, « Il faut dépoussiérer les musées. » Et aujourd'hui, avec le dispositif dont il parle, on a fait un sérieux bond. C'est unique au monde. On appelle ça une attraction, même si j'aime pas trop le terme, mais on n'est pas un parc d'attractions. Il faut rester dans le côté musée. Dépoussiérer l'histoire et les musées au nom de la mémoire et de la transmission, cela passerait donc par des expériences, telles que celle de ce simulateur de vol, ou bien par des tours à bord de blindés que propose le Normandy Victory Museum, par un escape game que l'on peut voir au Blockhaus à 40 ans, qui vous fait, je cite le document promotionnel, qui vous fait endosser le rôle des parachutistes britanniques de la 6e Airborne, infiltrer un bunker allemand et guider les planeurs alliés traversant la Manche pour sauver notre liberté. Ou bien encore par des circuits en jeep censés permettre de, je cite, « ressentir l'émotion des parachutistes atterrissant en milieu hostile ». Nous avons là un faisceau d'éléments qui soutiennent la proposition initiale selon laquelle les commémorations entreraient dans un mouvement plus large d'économicisation de la culture et de culturalisation de l'économie. La culture, et tout particulièrement ici l'histoire, subit une tendance profonde par laquelle les logiques de l'économie déterminent la conception de l'offre de contenu. Tendance particulièrement visible dans les lieux qui revendiquent une appartenance à la sphère culturelle, comme c'est le cas de certains musées. Dans le même temps, l'économie se sert de la culture, toujours ici l'histoire, pour apporter de nouvelles dynamiques à ces modes d'action classiques que sont, en l'occurrence, le commerce, l'hôtellerie et la restauration. Ce contexte d'hybridation entre histoire, économie, loisirs, expérience et divertissement éclaire bien sûr d'un jour tout particulier la démarche en cours de classement des plages, les plages au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car, comme semble le montrer l'expérience des sites précédemment élus ou classés, un tel classement est synonyme d'une augmentation de l'ordre de 30% du nombre de touristes. On touche en fait là à ce que les économistes appellent une externalité positive. Autrement dit, l'influence favorable d'une activité sur une autre, sans que la seconde ait à rémunérer la première. Par exemple, dans le domaine patrimonial, le classement d'un site a des effets positifs sur un certain nombre d'activités qui l'entourent, le tourisme, la valeur de l'immobilier, l'aménagement du paysage, les commerces et les services. On pourra également observer que ces constats et évolutions recouvrent largement des analyses de sociologues qui observent, comme le fait Bernard Lahire, une polarisation des pratiques culturelles entre, d'une part, celles qui relèvent du divertissement, du loisir, du défoulement ou de la participation, ce qu'il appelle la culture chaude, celle de la participation, de l'implication personnelle, et d'autre part, des pratiques qui relèvent de la réflexion, de l'analyse personnelle, du débat, ce qu'il appelle la culture froide. Si l'identification de ces deux pôles n'est pas nouvelle et reprend des catégories assez classiques, qui distinguent par exemple la littérature et les littératures de genre, ou l'opéra et la chanson. Ce qui est nouveau, c'est le fait que l'histoire soit happée par ce mouvement, comme peut en témoigner la notion de D-Day Festival, a fortiori quand elle est illustrée par cette affiche du 71e anniversaire qui ne laisse des plages du débarquement que l'image du Farniente et celle de ces trois jeunes femmes prenant la pose en tailleur ajusté. De même, toutes ces observations peuvent-elles être comprises à l'aune de ce que l'on appelle la ludification, ou, pour prendre le terme anglais, la gamification. La ludification qui traverse de nombreux pans de la société comme l'éducation et le monde du travail, et qui consiste à utiliser des mécanismes du jeu pour accroître la motivation face à une tâche, un apprentissage, ou plus largement une situation qui requiert un effort intellectuel ou physique. Parmi les critiques faites à l'encontre de ce phénomène, soulignons, pour ce qui nous intéresse ici, le risque que la pratique même du jeu, surtout si elle est omniprésente, renvoie en second plan l'objectif qu'il est censé servir, voire le fasse oublier, distrait en quelque sorte le joueur de ce qu'il est supposé apprendre. On en vient donc à la question centrale, et la mémoire dans tout ça. S'agit-il encore bien d'histoire et de commémoration ? Françoise Passera, que je citais tout à l'heure, en conclusion de son enquête sur les musées consacrés au débarquement, relève plusieurs points. Tout d'abord, le fait que c'est le plus souvent la micro-histoire qui est retenue, avec un zoom très resserré sur l'ultra-local et sur le temps très court. Il s'agit bien de valoriser l'histoire locale, de mettre en exergue faits d'armes, gestes collectifs, prouesses et courage individuel, et de les attacher au territoire, mais en négligeant le plus souvent de resituer le débarquement dans ce qui était un conflit mondial avec de nombreux fronts. Il s'agit donc de produire des histoires, en quelque sorte, plutôt que de construire l'histoire. En second lieu, elle observe que les suites du débarquement, la dernière année du conflit et l'après-guerre, sont très peu développées dans ces musées. Elle note également que les causes idéologiques de la guerre sont peu représentées, de même que les réalités de l'occupation, comme s'il s'agissait, suppose-t-elle, de veiller à ne froisser personne. Elle remarque enfin la place prise par des scénographies inspirées du jour le plus long du soldat Ryan ou de Band of Brothers au détriment du film documentaire, avec pour conséquence le fait qu'on ne sait plus très bien, et les touristes eux-mêmes ne savent plus très bien, s'ils viennent voir les sites de tournage plutôt que les lieux du débarquement. On ne peut pas attendre des musées et des commémorations qu'ils garantissent la transmission de la mémoire de cette période connue pour marquer le début de la libération de l'Europe, même si l'issue de la bataille de Stalingrad en février 1943, beaucoup plus meurtrière que le débarquement de Normandie, a constitué un tournant déterminant vers la défaite du régime nazi. Néanmoins, quelques chiffres laissent songeurs sur la portée éducative de ces différentes formes de mise en scène mémorielle. Au 21% de jeunes de 18 à 24 ans qui déclarent n'avoir jamais entendu parler du génocide des Juifs, s'ajoute une perception très floue de ce qu'a été la Shoah. La mort en déportation de 80 000 Juifs de France et celle de 60 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale n'empêche pas la résurgence actuelle de l'extrême droite en Europe et de mouvements néo-nazis. Et si, justement, la mise en scène et le tourisme mémoriel desservaient la mémoire? Si l'on s'en tient aux commémorations du débarquement, il apparaît bien qu'une mécanique implacable ait permis qu'au fil du temps, le simple et solennel hommage aux morts se soit laissé gagner par de multiples enjeux. Mémoire et transmission, certes, mais aussi patrimoine, tourisme, commerce, valorisation internationale du territoire. Ces questions dépassent très largement les sites du débarquement et nombre des lieux mémoriels sont pris dans des tensions ou ambivalences multiples. Transmettre l'histoire des conflits ou promouvoir la paix. Sanctuariser les lieux ou les rendre à la vie. Favoriser la compréhension ou privilégier les reconstitutions et les expériences. Commémorer ou fêter. S'y ajoutent les ambiguïtés de leurs visiteurs, que désignent les expressions de tourisme mémoriel même, ou celles de dark tourism, le tourisme sombre ou le tourisme macabre, selon la traduction que l'on retient. Tourisme sombre dans lequel, ou dark tourism, dans lequel les spécialistes identifient une certaine fascination, d'un côté pour les actes de déshumanisation extrême et pour les technologies qui les rendent possibles, et de l'autre côté pour des actes ou gestes symboliques allant dans le sens de la rédemption. Comment faire du clair avec de l'obscur, pour reprendre le titre d'un article d'une de ces spécialistes du dark tourism, Valérie Rozou. Un dernier point de réflexion en guise de conclusion porte sur la difficulté d'être critique avec cet objet, avec cette question des commémorations. La critique portant sur l'exploitation commerciale et touristique des commémorations se heurte, bien sûr, on s'en doute, se heurte très vite aux bénéfices du développement économique. Elle se voit rapidement opposer l'accroissement du chiffre d'affaires et le nombre d'emplois induits dans nombre de secteurs d'activité. Le commerce, l'hôtellerie, la restauration sont en premier chef, mais aussi les agences de location de voitures, la réhabilitation du bâti, l'aménagement, les travaux publics. Si l'on garde à l'esprit le fait que le développement du tourisme qui a gagné au XIXe siècle les côtes du Calvados, avec Cabourg et Deauville en premier chef, et aussi celle des côtes ouest du Cotentin autour de Granville, si l'on garde à l'esprit le fait que ce développement a oublié, délaissé, voire totalement ignoré, la côte est du Cotentin, le business des commémorations et ses flux de touristes internationaux prennent des airs de revanche. Dans ce contexte, il est difficile de rendre audible le questionnement sur le caractère plus ou moins discutable de certaines pratiques. Quant à la critique sur l'idéologie sous-jacente à certaines pratiques de collectionneurs, les reconstitutions, les défilés, les campements, le commerce de militaria, cette critique semble plus facile à admettre par les habitants. Ils y perçoivent des pratiques importées, oublieuses des faits et des drames de la guerre. La fascination que ces pratiques entretiennent pour les armes et le matériel militaire est aussi l'objet de critiques ou suscite au moins une certaine distanciation. Cette fascination contribue aussi à expliquer une situation paradoxale qui fait que l'armistice est moins célébré, beaucoup moins célébré qu'une opération militaire. Et le fait que, pour une large part, les collectionneurs instrumentalisent à leur profit une émotion qui reste vive n'échappe guère au regard des habitants. C'est ainsi que ces amateurs de militaria, ces collectionneurs, pour certains très zélés, sont parfois surnommés par les habitants les déguisés, terme qui situe leur hobby plus près du carnaval que du travail de mémoire et démontre au passage, avec une pointe d'humour, une capacité à ne pas s'en laisser trop compter. Pris entre business et idéologie, le regard critique sur les commémorations peine aussi à se frayer un chemin dans un récit collectif qui confère aux lieux, aux hommes et au débarquement, dans sa globalité, des dimensions sacrées, mythiques et héroïques. Ce sont là trois facteurs amplement suffisants pour faire qu'un roman, on y revient, écrit en forme de farce, dont le personnage principal s'invente des souvenirs de guerre et développe son petit business, son petit commerce d'œuvres d'art conçu à partir de vestiges, pour faire donc qu'un roman soit jugé comme sensible pour des raisons dites politiques et tenu délibérément à l'écart, par exemple, du salon du livre de Caen. La mémoire n'est pas uniquement exposée au risque du marché. Je vous remercie.